Bonsoir. Justice et vérité pour Delphine Jubilard. Les proches de la jeune femme disparue il y a un an dans le Tarn ont défilé cet après-midi. Une marche blanche pour ne pas l'oublier alors que l'enquête est toujours en cours. Réunir la gauche pour la présidentielle, mais comment ? 1500 élus locaux appellent dans une tribune à une primaire citoyenne. Le Chili aura ce soir un nouveau président. Les électeurs ont le choix entre deux extrêmes. Et puis les handballeuses françaises aux portes de l'exploit après leur titre olympique. Elles affrontent en ce moment la Norvège en finale du mondial 15 à 9. Pour l'instant, pour les Françaises, nous irons prendre la température du match avant les prévisions de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal qui nous promet des éclaircies.
France Inter.
Le visage de Delphine Jubilard sur une banderole et les prénoms de ses deux enfants. C'est derrière cette bannière que 300 personnes ont défilé cet après-midi à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Des proches, des voisins, émus par la disparition de la jeune femme, il y a tout juste un an, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cette infirmière de 33 ans était en instance de divorce. Depuis 6 mois, son mari est en détention provisoire, mis en examen pour homicide volontaire. Il se dit innocent et le corps de la jeune femme reste introuvable. Alors cette marche blanche pour sa famille, ses amis, c'est aussi une façon d'être ensemble. Le reportage de Valentin Dunat.
Justice et vérité, c'était écrit en gros sur la pancarte que portaient les amis et la famille de Delphine Jubilard qui ont voulu lui rendre hommage en musique et en prenant la parole. Amy est l'une de ses meilleures amies.
Il faut que celui qui a fait du mal parle. Il faut que les personnes qui n'osent pas s'expriment, pour elle, mais au moins pour le petit, s'il vous plaît. Elle ne mérite pas de tomber dans l'oubli et elle ne le sera jamais aux yeux de ceux qui l'aiment.
Dans la foule, des anciens collègues, des membres de sa famille, mais également des anonymes, comme ce couple venu d'un village voisin.
Ben non, on ne le connaît pas, mais bon.
Pour être solidaire avec Delphine.
Pour pas oublier, se soutenir, surtout pour ses enfants. Ouais.
Ce rassemblement s'est terminé devant le domicile du couple Jubilard, un rassemblement important pour la tante et la cousine de Delphine.
On le voit, la solidarité qu'il y a. Ils viennent pourquoi ? Parce qu'eux aussi veulent savoir la vérité. Ça, je peux le dire. Mais après, qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse ? On ne peut rien faire. On n'a pas de traces de Delphine, on n'a rien. On ne sait pas qui c'est non plus le coupable, entre parenthèses. Et on ne lâchera rien.
Actuellement, une dizaine d'enquêteurs travaillent pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et plus de 200 personnes ont déjà été entendues dans cette affaire.
Un reportage de Valentin Dunat. Comment reconstruire une gauche éparpillée façon puzzle ? 1500 élus locaux de gauche prennent la plume dans le journal du dimanche aujourd'hui. Ils appellent dans une tribune à une primaire citoyenne ouverte pour désigner un candidat unique à la présidentielle. Anne Hidalgo, candidate déclarée du PS, y est favorable, tout comme Christiane Taubira qui envisage de se présenter. Refus net en revanche du côté de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot. Parmi les signataires de cette tribune, les socialistes Martine Aubry, la présidente de la région Occitanie Carole Delga, mais aussi des élus de petites villes, fatigués de voir la gauche se diviser. Lionel Marie est le maire de Blainville-sur-Orne, dans le Calvados.
On assiste à un festival de candidature à gauche, et ça me paraît tout à fait inquiétant dans la mesure où ça crée les conditions d'une défaite de la gauche aux élections présidentielles. Or, je pense qu'aujourd'hui, en partant chacun dans son coin, on joue avec le feu, parce qu'à un moment donné, on risque de se retrouver avec un extrémiste à la tête de la France. Et ça, c'est pas possible. Ça n'est pas la France. On a des propositions dans tous les domaines, que ce soit pour défendre la politique sociale, que ce soit pour défendre l'emploi, que ce soit pour défendre la planète. Et donc, on doit se rassembler, porter ses valeurs et puis gagner cette élection présidentielle.
Lionel Marie, interrogé par Lisa Pénalvert de France Bleu Normandie-Caen. À quelques jours de Noël, l'Europe serre la vis pour tenter de freiner la propagation du variant Omicron. Il pourrait devenir majoritaire en Europe d'ici mi-janvier. Aux Pays-Bas, les magasins non essentiels, les restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres ont fermé aujourd'hui jusqu'au 14 janvier. En Grande-Bretagne, le ministre de la Santé surveille la situation sanitaire, heure par heure. L'Italie aussi réfléchit à de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie. En France, focus toujours sur la vaccination et appel à la responsabilité des Français pendant les fêtes. Et pourquoi pas bientôt un pass sanitaire pour tous les salariés en entreprise. Le gouvernement y réfléchit. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, réunit demain les partenaires sociaux. Il n'avait pas besoin de ça. Boris Johnson fait face à la démission surprise de son ministre du Brexit. Libéral convaincu, David Frost reproche au Premier ministre britannique d'avoir augmenté les impôts et accru les restrictions sanitaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Et direction le Chili pour le second tour de l'élection présidentielle. Entre le programme de redistribution proposé par le candidat de gauche, Gabriel Boric, ex-leader étudiant de 35 ans, et la feuille de route ultra-libérale du candidat d'extrême droite, José Antonio Kast, le choix est radical pour succéder au président conservateur Sébastien Piñera. L'issue du scrutin s'annonce serrée. À Santiago du Chili, Justine Fontaine est allée à la rencontre des électeurs des deux camps.
Dans ce lycée public du centre-ville de Santiago, à deux stations de métro du palais présidentiel, on trouve une quarantaine de bureaux de vote. Tania, 32 ans, a voté pour le candidat de gauche, Gabriel Boric, car il reprend une grande partie des demandes du mouvement social de la fin 2019.
Une éducation gratuite et de qualité, que les femmes et les hommes ne doivent pas prendre leur retraite trop vieux, qu'ils aient des retraites dignes, et puis qu'il n'y ait pas de gens qui doivent payer pour avoir accès à des soins de qualité ou que des gens ne puissent pas avoir accès à la santé, faute d'argent.
Elle soutient aussi l'Assemblée constituante qui est en train de rédiger le texte qui pourrait remplacer bientôt la constitution actuelle, héritée de la dictature du général Pinochet. Mais Francisco, 42 ans, craint lui que les réformes promises par la gauche provoque de l'instabilité économique. Alors il votera pour le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast.
Ça n'est pas mon idole, honnêtement, mais je pense que l'économie est davantage à la peine quand il y a un gouvernement de gauche, car les chefs d'entreprise ne lui sont pas favorables.
Entre les deux tours, les candidats ont tenté de modérer leur programme et leur discours, notamment José Antonio Kast, concernant les femmes et les droits de la communauté LGBT+. Les deux hommes étaient ces derniers jours au coude à coude dans les sondages. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Et le résultat est attendu dans la soirée. Allez, vous l'attendiez tous. On va prendre des nouvelles de la finale de handball. Vont-elles réussir la passe de deux? Les handballeuses françaises, championnes olympiques en titre, tentent de décrocher le titre mondial face à leurs meilleurs ennemis, les norvégiennes. La finale a commencé il y a une demi-heure. Vous êtes à Granollers en Espagne, Jean-Pierre Blimeau. Et ça se présente bien pour les françaises?
Oui, parce que les françaises mènent de 6 buts. 16 à 6 à quelques secondes de la mi-temps, alors que le jeu a été un petit peu arrêté là pour des problèmes de table de marque. Et là, à l'instant, eh bien, jet de 7 mètres, l'équivalent d'un penalty permet aux Norvégiennes de revenir à 5 buts, mais c'est tout de même énorme pour l'équipe de France qui a fait un très, très gros début de match. On ne les avait pas vus avec un jeu de telle qualité dans ce mondial, surtout au début des matchs qu'elles ont plus ou moins ratés. Et là, elles sont vraiment au niveau de cette finale qui est intense, qui est partie sur des bases vraiment très solides. Les Françaises en plus qui ont retrouvé leur efficacité au tir, même s'il y a quelques ratés comme à l'instant avec Laura Flip qui bute sur la gardienne adverse. En tout cas, plus 5 à moins de 20 secondes de la fin de la première mi-temps. C'est une finale très très bien partie pour les Françaises.
16 à 11 donc pour les Français. Merci Jean-Pierre Blimeau. Résultat bien sûr dans le journal de 19h, le temps de demain.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Et la lumière revient, Jean-Michel Golinski.
Un ciel enfin plus lumineux ce lundi pour les régions de la moitié nord du pays, avec le retour d'éclaircies en cours d'après-midi. Elles seront généralement plus développées entre le nord de la Seine et le quart nord-est, ceci après une matinée quand même encore très chargée. Dans la moitié sud, les brouillards plus tenaces de la Drôme au Val-de-Saône et dans le quart sud-ouest seront suivis d'un ciel assez souvent bien dégagé, avec des températures proches de 0 à moins 3 degrés au réveil sur un axe sud-ouest-nord-est, valeurs qui vont rester bloquées l'après-midi à 4 degrés dans le centre-est. Il fera 10 à 15 autour de la Méditerranée et généralement entre 6 et 8 sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski de Météo France.